Vacances. Le voici arrivé, le moment tant attendu.
Quand faut y aller. Merde.
Il y a eu du soleil, alors je suis descendu.
Il y a du soleil, il y a des nanas.
Cinérama.
Je vais vous tenir au courant des mesures qu'on va prendre.
À mon avis, il y aura des ouvertures.
Génial.
Je ne m'attarderai pas en vaine palabre, je serai bref et précis, je ferai feu à bout portant.
Tu pars pas en vacances?
Non, pourquoi?
Pas possible!
Nous dépendons énormément de la saison d'été, c'est vital.
C'est le seul point noir au tableau.
Je m'en fous!
Tout l'été, Cinérama, blind test et actualité du cinéma.
Ouais, jamais très original dans ces moments-là, tu sais.
This is Cinérama.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama en format été, ça veut dire un format un peu plus détendu, mais on garde quand même un œil sur l'actualité. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Alors tu as un film justement, un film très d'actualité parce que on parle de lui comme du polar de l'année.
Alors je pense pas que ce soit tout à fait le cas, même s'il a de grandes qualités. Oui, c'est Limbo de Soi Chang.
Et puis tu reviens aussi pour une deuxième semaine avec la série sur les femmes compositrices.
Alors oui, je reste un peu en Angleterre là parce qu'elle est encore britannique, mais elle n'a pas moins de talent. C'est Rachel Portman qui sera à l'honneur aujourd'hui.
Et puis durant tout cet été, on va en profiter pour rediffuser des blind tests qu'on a fait durant la saison, les saisons de Cinérama. Et on va commencer cette rediffusion avec un blind test sur les films autour de la plage, c'est-à-dire tous les films qui se passent à la plage ou dans l'eau. Mais nous allons commencer avec Catherine Corsini. Il s'en est fallu de peu pour que son film ne soit pas présenté au dernier festival de Cannes. Du coup, ça aurait enlevé une femme de la compétition. Nous parlons maintenant du retour.
J'entends beaucoup parler de votre travail.
Cinérama.
On s'en passerait aisément.
Vous êtes déjà venu en Corse? Regardez-moi. Les filles, on a une piscine à la maison. Vous êtes les bienvenues. Comme vous voulez.
Tu vas pas rentrer chez les gens comme ça?
Ils m'ont invité, c'est pas pour rien que je suis là.
Khedija est une mère de famille à qui l'on propose de venir passer l'été en Corse pour travailler chez une famille parisienne aisée et prendre soin de leurs enfants. Khedija saisit cette opportunité de revenir là où elle s'est mariée il y a longtemps avant de fuir l'île de beauté et revient donc avec ses filles qui ont désormais bien grandi. Jessica, la plus âgée, est une adolescente au parcours modèle, jeune fille noire née dans un milieu défavorisé qui va entrer à Sciences Po, tandis que Farah, 15 ans et plus rebelle, envisage l'été comme un moment d'ennui et donc forcément de bêtises. Tandis que Khedija fait face à son passé et aux secrets qu'elle a enfouis, ces deux filles font leurs premières expériences au cours d'un été plein de découvertes.
Ça va? T'as fini? On peut se voir si tu veux, pour faire des trucs. Je te montrerai un peu. Des petits endroits secrets.
Dégagez, bande de bâtards!
Fais
ta gueule!
Toi, tu parles comme ça aux gens? T'es obligé de dire des trucs racistes?
Rentre dans ton pays, toi aussi.
Qu'est-ce que tu racontes, sale babtou? Je suis corse, moi. Tu veux voir ma carte d'identité, peut-être?
Je veux voir ta carte de séjour, plutôt.
Ah, la Corse, ses plages, son maquis, ses paysages, sa lumière et son racisme, sans lequel la carte postale ne serait pas complète. Catherine Corsini, chez qui souvent les relations amoureuses prêtent à parler de rapports de classe, profite que son dernier film se passe en Corse pour aborder un sujet bien peu vu au cinéma, la place des personnes noires sur l'île de beauté. Dans un amour impossible, l'histoire d'amour entre Nils Schneider et Virginie Efira se trouvait avortée en raison de leurs différences de classe. Dans La Belle Saison, une fille de paysan tombait amoureuse d'une féministe parisienne et découvrait la capitale. Dans La Fracture, une bourgeoise en pleine rupture amoureuse se heurtait à un jeune gilet jaune révolté dans un hôpital public. La Fracture, qui avait d'ailleurs valu à Aissatou Diallo Sagna le César du meilleur second rôle, une comédienne que l'on retrouve ici, donc dans le nouveau film de Catherine Corsini. Le retour est arrivé en salle peu de temps après sa présentation à Cannes cette année, après avoir suscité plusieurs polémiques. Il aurait été question de scènes de sexe impliquant des adolescentes qui n'ont pas été déclarées au moment du tournage. Alors à noter quand même que les scènes de sexe du film sont vraiment bien moins crues et bien moins choquantes que la plupart des scènes de sexe entre adolescents dans d'autres films qui traitent des premiers émois quand ces scènes sont filmées par des hommes. Je citerai au hasard Smells Like Us de Larry Clark ou encore Un moment d'égarement de Jean-François Richer dans lequel Vincent Cassel couche avec la fille de son meilleur ami qui a 16 ans. Ou encore évidemment tous les derniers films de Adélatif Kechiche dont Make To My Love.
Je suis contente que tu m'aies rappelé.
Tu débarques au bout de 15 ans, je suis curieux.
T'avais quel âge quand il est mort, ton père?
3 ans.
C'était ton premier amour?
Oui. T'as jamais pécho avant?
Non, j'ai pécho personne avant, non.
Les gamines, elles ont pas envie de voir leur grand-mère.
Elle sait pas qu'on est là.
Moi, tu sais qui je suis.
Tu nous as privés de père, tu nous as privés de famille, on a grandi seul, on a grandi sans rien.
Tu la connais, toi, Khadija, tu la connais mieux que moi.
Assez peu, elle est très pudique.
Ah, c'est une question de culture, ça.
Oui, bah toi, ça te ferait pas de mal, hein, d'être un peu plus pudique.
Et pas comme toi, Gaïa.
Pourquoi tu dis ça?
Les scènes de sexe dans Le Retour sont soit extrêmement pudiques, il n'y a quasiment jamais de nudité, hein, soit carrément tournées de façon plutôt comique, comme cette scène lors d'une soirée où le lavabo s'arrache du mur lors des ébats des deux héroïnes. Personnellement, j'aimerais défendre Le Retour, que j'estime être un film réussi et qui a beaucoup pâti de ses diverses accusations lors de son passage à Cannes, d'où il est reparti bredouille et jugé avec une dureté excessive, des accusations d'ailleurs restées anonymes et qui n'ont occasionné aucune confirmation de la part des comédiennes concernées.
Et vous vous êtes rencontrés comment?
Dans le train. J'étais serveuse au wagon restauration et il m'a fait la cour pendant tout le trajet.
Il a fait la cour?
Bah, qu'est-ce que tu veux que je dise?
Comme une reine.
Il était bien mordu, en tout cas. Vous étiez beaux, tous les deux. Vous aviez la classe.
La classe?
Oui, la classe. Mais regarde les photos.
Rien que ça.
La quoi? On n'est pas la classe.
Ah bon?
Pourquoi tu nous as jamais raconté tout ça?
Comme dans La Fracture, dans Le Retour, on va assister à une confrontation de deux milieux sociaux. Les films qui parlent de « retour » entre guillemets sont bien souvent truffés de secrets. Et bien ici, le film se double d'un film initiatique. Et c'est quasiment sa plus belle partie puisque les deux jeunes sœurs vont expérimenter leurs premières amours. Les actrices sont d'ailleurs le carburant de ce film très féminin. Aux côtés de Aissatou Diallo Sagna et de Virginie Ledoyen, on retrouve les jeunes et très prometteuses Suzy Bamba, Esther Gourou, que l'on avait découverte dans le film Mignonne, qui est incroyable de pétillance, et Lomane de Dietrich, une jeune comédienne dont la ressemblance avec Adèle Haenel dans le regard, dans la démarche, dans le phrasé, n'aura échappé à personne. Et au milieu, eh bien, Denis Podalydès joue ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire le bobo attachant et un peu largué dans un rôle secondaire lunaire de père de famille aisé. À noter qu'en plus de cette troupe de comédiennes, eh bien, l'équipe du film est presque entièrement féminine. Les scénaristes Catherine Corsini, Naïla Guiguet sont entourées de Jeanne Lapoirie à la photo et de productrices. Une façon de rééquilibrer les inégalités du cinéma pour Catherine Corsini qui, on l'espère, pourra continuer son travail dans le futur, loin des polémiques.
C'est ça ton style, les petites Corses. Vous avez des soucis avec les Corses dans cette famille.
Le Retour de Catherine Corsini est en salle depuis le 12 juillet. Grand prix au Festival de Reims du Polar, Limbo, film hongkongais, Ali Noirceur et Virtuosité. Alors certains annoncent que c'est le Polar de l'année. Toi, tu penses que non, Guillaume, mais tu vas nous en parler.
This is Cinerama.
Et ça, c'est clair.
La main coupée trouvée hier appartenait à une femme. La main gauche. Comme l'affaire d'il y a deux semaines.
Jusqu'à présent, les films de Swat Chang nous étaient arrivés principalement en DVD. Alors Dog Bite Dog, Coq de Combat, Love Battlefield ou encore Motorway n'avaient donc pu toucher qu'un pan des spectateurs français, ceux déjà rompus, hein, un certain intérêt pour le cinéma hongkongais. Alors les choses risquent peut-être de changer avec Limbo qui, malgré une sortie estivale coincée entre deux énormes blockbusters américains, arrive auréolé d'une nomination à la Berlinale de 2021. Alors une manière de rappeler que malgré la désormais mainmise de la Corée du Sud sur l'ensemble de la production asiatique depuis quelques années et un système de production hongkongais bien moins libre et fédérateur qu'auparavant, mais il y a encore là-bas des envies de cinéma qui détonnent. Et des arguments, Limbo n'en manque pas.
Encore la main gauche.
C'est un très bon exemple. Vous pouvez apprendre de lui.
C'est pas la bonne odeur.
L'odeur de décomposition ?
Direction Hong Kong donc, mais pour mieux plonger dans ses bas-fonds. Alors Limbo n'est nullement une référence au jeu Phénomène sorti en 2010, mais en partage néanmoins son noir et blanc très esthétique et une ambiance glauque de tous les instants. Limbo fait référence aux agissements d'un tueur en série qui kidnappe, viole et coupe la main gauche de ses victimes, toutes de jeunes femmes marginales, laissant donc des membres, limbs en anglais, apparaître dans les caniveaux à la vue de tous. Alors Limbo fait également référence au limbe, l'endroit que nous n'allons jamais quitter, pendant 2 heures. C'est bien évidemment l'idée la plus forte du film et à laquelle un soin maniaque a été porté. Un flic vétéran et son jeune supérieur doivent faire équipe pour traquer donc ce tueur dans les endroits les plus sordides de la ville, ceux que les citoyens lambda ne visitent jamais, qui sont tels des tranchées ou des gouffres où la misère humaine disparaît aux yeux de tous. Alors ces quartiers remplis de déchets, ces bidonvilles et zones de désolation gigantesques qui sont tels des bubons sur l'épiderme d'une ville ultra moderne, constituent une nouvelle société dans la société, une zone qui devient fantastique car totalement effrayante et bien sûr sublimée par le clair-obscur du noir et blanc dont on comprend du coup parfaitement son utilité. Alors il n'est dès lors pas étonnant qu'un monstre humain en surgisse pour mieux arracher à la fausse lumière de la civilisation des victimes, pas forcément si innocentes, car elle aussi teintée par la salissure de la vie urbaine. L'histoire devient plus glauque encore quand entre en jeu une jeune femme que le policier aguerri déteste plus que tout. Responsable de l'état désormais lamentable et irréversible de sa femme, renversée accidentellement par la jeune femme qui était au moment des faits sous l'emprise de drogue, il cherche par tous les moyens de l'humilier et de la battre alors qu'elle vient tout juste être relâchée de sa peine de prison pour le dit accident. Au bout de ses forces, elle finit par livrer son corps au policier, non pas pour racheter celui qu'elle a définitivement mutilé, mais pour servir d'appât au tueur et ainsi essayer de reconstruire la grâce d'une âme bien mal en point. Une rédemption qui passe par un plongeon dans les ténèbres et qui ne se fera pas, on s'en doute, sans mal.
Le tueur était là. On va trouver une solution.
Et c'est quoi ta solution?
Si je la trouve, on est quitte.
Vous pensez vraiment être toujours apte à être flic?
Comme il était dit plus tôt, le point fort de Limbo n'est pas son scénario au final très classique mais pas déplaisant, c'est son ambiance due à sa photographie, à la musique du toujours impérial Kenji Kawai, mais aussi et surtout grâce à ses décors dantesques qui érigent un véritable enfer sur Terre. Alors malgré le poids évident de Seven auquel il emprunte des tropes, mais oui, encore et toujours Seven, lorsqu'il est question d'un film de tueur en série, c'est un peu pénible, je dois bien l'avouer, mais le film est quand même trop long pour son propre bien. Alors les 2 heures de métrage diluent un peu l'aspect cru que le film aimerait marteler en continu et nous permet de nous installer peut-être un peu trop confortablement dans ce qui est quand même un univers poisseux et répugnant. Alors au bout d'un moment, on en vient à apprécier cette esthétique qui a pourtant tout du répulsif et qui normalement doit nous dégoûter dans son intégralité. Les errances dans la narration appauvrissent également la force de cet univers urbain sordide, car un personnage qui passe 20 minutes à chercher dans des poubelles une arme à feu que l'on a vu être récupérée tout de suite par le tueur, finit par lasser, tout comme une espèce de sous-intrigue pas forcément finode qui tourne autour d'un des policiers qui souffre à cause de l'une de ses dents de sagesse qui lui fait un mal de chien. La conclusion de cette sous-intrigue sera d'ailleurs plus drôle qu'autre chose, ce qui fait tâche dans un film qui veut constamment tutoyer les ténèbres. Ah oui, et il est toujours dommage de voir des gens se battre aussi bien, violemment et aussi savamment dans une narration qui veut pourtant développer des personnages crédibles, donc complètement terre-à-terre. Bref, le long métrage de Sui Chang souffle le chaud et le froid, et s'il est un agréable moment de divertissement pour peu que vous aimiez sortir déprimé d'une salle de cinéma, n'hésitez pas à aller voir Limbo, un territoire où tout est sombre, à tel point qu'il n'y a pas de rédemption possible et aussi charnel, et donc particulièrement cruel que soit votre chemin de croix.
Et voilà ce qu'on dit sur l'affiche monumentale, brutale et virtuose, inoubliable, le polar de l'année. Donc voilà, à vous de vous faire votre idée, surtout si vous voulez pas aller voir Tom Cruise dans l'émission Impossible 7, puisque c'est la grosse sortie dont nous parlerons seulement la semaine prochaine. Limbo est dans les salles donc depuis le 12 juillet. À nous, la série sur les femmes compositrices. C'est une série donc pendant toutes les émissions de Cinérama cet été. Et aujourd'hui, c'est Rachel Portman. Elle fut la première femme à remporter un Oscar de la meilleure musique de film en 1997 pour sa composition du film Emma. Et c'est bien sûr toi, Guillaume, qui nous en parle.
J'ai quelque chose à dire.
Cinérama.
Et croyez-moi, ce ne sera pas long.
Les grands qui furent jadis petits doivent frissonner à l'heure qu'il est et comme on les comprend. Alors vous venez d'entendre le générique d'introduction de Monstres et Merveilles, la fabuleuse série de Jim Henson mélangeant personnages réels et marionnettes si chers au papa des Muppets. Alors comme sa compatriote Anne Dudley, Rachel Portman est anglaise mais officie pendant 10 ans principalement à la télévision, elle, avant de rejoindre le monde du grand écran pour de bon au début des années 90. Alors grand bien lui fait, puisqu'après des films remarqués comme Benny and June avec Johnny Depp ou Smoke de Wayne Wong, elle est la première première femme lauréate donc d'un Oscar pour la musique de film en 96 pour Emma de Douglas McGraw, devançant de 2 ans Anne Dudley pour The Full Monty dont on avait parlé la semaine dernière. On écoute le main title, doux et délicat. S'ensuit un film oublié, car noyé dans les multitudes d'adaptations du roman de Collodi, mais que j'avoue aimer beaucoup, Les aventures de Pinocchio de Steve Barron. Alors Portman sublime les images, comme on peut l'entendre dans ce morceau qui s'appelle Terra Magica, et qui n'est pas sans rappeler un petit peu le Beetlejuice de Danny Elfman. Film important, mais aussi un petit peu oublié, ce qui est un crime quand on parle du talent de Jonathan Demme, le réalisateur de Dangereuse sous tout rapport, ou le multi-oscarisé Le Silence des Agneaux. Mais là voilà, en 98, au score de Beloved, où le fantôme d'une femme vient visiter d'anciens esclaves dans l'Ohio, peu après la guerre civile. Alors, nullement angoissant, le film vous fera monter les larmes aux yeux comme sa musique. On écoute Beloved is Gone. Rachel Portman va continuer à faire de très très belles compositions, sensibles et intenses, tout au long des 2 décennies qui suivront. En 2022, elle reçoit le prestigieux Career Achievement Award au Festival de Zurich. On se quitte avec un extrait de l'enjouée et fougueuse bande originale du film Oliver Twist de Roman Polanski, sorti en 2005, extrait intitulé « The Road to the Workhouse ». Thank you.
Merci Guillaume, tu reviens la semaine prochaine, encore avec une Britannique.
Je vous jure, je changerai après, hein, mais il faut quand même parler de Jocelyn Pook, et vous verrez pourquoi la semaine prochaine.
Allez, on revient sur un blind test qu'on aime bien rediffuser, surtout quand ça s'y prête. Hein. C'est un blind test que nous avons fait autour des films se déroulant sur la plage. C'est le moment blind test de cette émission et le moment retour dans le passé.
Cinérama.
Il est votre sac.
Interview, chronique, blind test et tout le reste.
Est-ce que je suis clair ?
Des films qui se déroulent soit sur la plage, soit la baignade est plutôt déconseillée, soit eh bien, est plutôt agréable. Et ça va être peut-être du plus facile au plus difficile.
Cause du décès, attaqué par un requin.
Ah, c'était trop facile, évidemment.
C'était le temps de la mer.
Oui. Film de 75 de Steven Spielberg, encore un facile dans un autre style.
Tout le camp lui est passé dessus.
Oh.
Tu t'es jamais faite, toi ?
Ah non, moi non.
Tiens donc, pourquoi ça ?
Je marche un peu sur des œufs avec les femmes parce que j'ai eu une année très difficile sentimentalement. Alors.
Moi aussi, j'ai eu les polyvalents dans mon salon.
Ouais, mais enfin, moi, j'ai eu une rupture. J'ai vécu avec une femme, et puis au bout de 48 heures, elle a décidé qu'on se séparerait d'un commun accord. Alors, j'ai pas bien supporté. J'ai même essayé de me suicider.
Comment ça ?
J'avais très original dans ces moments-là, tu sais. J'ai mis la Dadjo d'Albinoni, j'ai avalé 2 tubes de laxatif, et puis hop. J'ai perdu 16 kilos et ma moquette.
On aurait pu choisir plusieurs extraits, évidemment. Ça a été trouvé. Hein.
Eh ben, les bronzés de Patrice Lecomte.
Film de 78. Encore un, normalement quelque chose de facile.
27 banques en 3 ans. Mon Dieu. Tout le travail en 90 secondes. Et personne ne se fait tirer dessus. Alors concrètement, c'est quoi ? C'est une équipe solide de professionnels.
Ouais, ils bougent bien.
Tu parles. Ils ont une parfaite maîtrise de l'espace. Et ils se cantonnent seulement au guichet.
Ils s'attaquent pas au coffre ?
Non, c'est pas ce qu'ils veulent, ils sont pas avides à ce point-là.
C'est pas con, ça ferait gaspiller du temps.
Et ça, t'as tout compris. C'est Reagan qui fait le chauffeur. Toujours une voiture volée. Il laisse le moteur tourner, là, sur le trottoir. De loin, elle paraît bien garée. Et après la fuite, ils s'en débarrassent et disparaissent. Comme la virginité un soir de surboom. Bouffé par la nature. Psst.
Ah, petite blague aussi, hein. Mais c'est pas les mêmes. Ça a été trouvé par Marie.
C'était Point Break.
Oui. Avec Patrick Swayze et Keanu Reeves, oui. Grand succès des années 90.
Grand jeu d'acteur aussi. Hein.
Et qui a fait l'objet d'un remake d'ailleurs.
Très mauvais.
Très mauvais que tu avais chroniqué, Manu.
Quatrième extrait.
Premièrement, Charlie ne nous a jamais présenté de fille.
Si, Camille.
Mais non, il était en cinquième, ça compte pas. Deuxièmement, et... enfin, je sais pas, moi, ça crève les yeux. Tu vois bien que Martin est son petit ami.
Enfin, ça fait un an qu'ils se sont pas vus.
Justement, à cet âge-là, on se fâche pas comme ça, sauf pour des raisons sentimentales.
Mais enfin, Charlie fait du foot.
Troisièmement, et ça c'est l'argument qui tue, Charlie et Martin ne dorment pas dans la même chambre. On n'a jamais vu des ados faire chambre à part, sauf s'ils veulent cacher quelque chose.
Tu dis n'importe quoi, tu affabules.
Alors ?
Tu affabules.
Oui, on est dans un film français, Marine. Donc, ça n'a pas été trouvé. Alors, Valeria Bruni Tedeschi, qui...
Un beau dimanche, non, c'est pas ça.
Non, qui voit que leur fils est visiblement homosexuel. Il va découvrir l'homosexualité avec Jean-Marc Barr. Crustacé coquillage de Olivier Ducastel et Jacques Martineau. Mm-hmm. Ah, vous êtes passé à côté. Bon, bah oui, il faut voir ça. Dernier extrait.
Dents de rasoir.
C'est quoi, dents de rasoir ?
Vous avez vidé le bassin ?
Oui, on a retrouvé...
Vous les avez laissés filer ?
Les laissés filer qui ?
Ça va ?
De qui parlez-vous ?
Allons, monsieur, allons. Vous êtes totalement inconscient. Détachez-moi ! Détachez-moi !
Je vais voir si ce n'est pas vous, l'inconscient, monsieur.
Détachez-moi ! Si vous saviez, ils se reproduisent comme des mouches. Il n'y aura plus moyen d'y mettre fin. Bon Dieu, reprenez vos esprits. Que sont devenus les deux jeunes ? Ça, c'est un secret, je peux rien dire. Miséricorde, ils vont tous nous tuer.
D'accord, puisque c'est comme ça, ce sont les flics qui vous arracheront des amis.
Miséricorde, mais c'était Piranha.
Oui, bravo au film de Jodor, donc de 78, qui a fait l'objet d'un remake, encore une fois. Mais plutôt réussi.
Ah, plutôt réussi, oui. Deux remakes, même.
Deux.
Parce qu'il y a eu une suite à Piranha 3D. Deux. Ah oui. Piranha 3D2.
En tout cas, ainsi s'achève ce blind test spécial plage et baignade qui pourra revenir parce que des films, il y en a quand même pas mal. This is Cinerama. Voilà, j'espère que ce blind test vous donnera des idées pour se refaire un petit film. Les rencontres d'Arles se déroulent jusqu'au 24 septembre et laissent une grande place au cinéma. On en parle tout de suite.
Avec vous, c'est du travail soigné.
Cinérama.
Et ça, c'est clair.
Je l'ai lu, les Français ont soif de vacances et ils aiment la nature, mais ils ne rechignent pas à profiter de l'offre culturelle qui se multiplie pendant l'été. Alors, pour le cinéma, il y a quelques festivals. On va citer le festival du film francophone d'Angoulême, celui de Douarnenez au mois d'août. Et puis, dans le sud, on a par exemple les rencontres de Gindou dans le Lot, le même mois. Mais plus près de nous, ce mois de juillet, on a les ciné-rencontres de Prades dans les Pyrénées-Orientales. Alors, on passe sous silence la multitude de petits festivals proposant des projections en plein air. Mais parfois, le cinéma s'invite dans d'autres festivals et c'est le cas des rencontres d'Arles dont nous vous parlons chaque année. On vous en parle d'autant plus facilement que ce grand rendez-vous de la photographie se déroule tout l'été. Cette année, une grande place est faite au cinéma sous deux aspects. Alors, tout d'abord avec des cinéastes, morts ou vivants, et d'autre part avec des éléments créatifs du cinéma. Alors, brisons le suspense, le cinéaste mort est en fait une cinéaste, Agnès Varda, qui a d'abord commencé par la photographie. C'est ce qu'on pourra voir avec Agnès Varda, la pointe courte des photographies au film. La Pointe Courte, c'est un quartier de Sète, ville d'adoption de la cinéaste qu'elle a photographiée à de multiples reprises. C'est aussi à la Pointe Courte, sur les berges de l'Étanto, qu'Agnès Varda va tourner son premier film en 1954. Parcourir les planches contact d'Agnès Varda rend compte de son cheminement photographique, nous explique la commissaire de cette exposition. Comparer les quelques 800 vues prises à Sète noyées dans le corpus de sa pratique photographique avec la minutieuse sélection qu'entreprend la jeune femme dès 53 pour préparer son film permet de révéler sa vision, c'est encore ce qu'on peut lire. On peut ainsi voir dans cette exposition ce qui a préexisté à l'idée du film ou participé à sa conception. Et on écoute, Agnès Varda, c'est un document issu de l'INA. Elle nous parlait justement de son premier film, La Pointe Courte.
C'est vraiment un film que j'ai écrit sans me rendre compte ni de ce qu'était le cinéma. Je n'en avais pas d'idée. Je n'en avais pas d'idée cinématographique, mais j'avais des idées très précises. Alors j'ai écrit très précisément un découpage, des mouvements, des trucs, bon ou mauvais, et j'ai tourné exactement ça. Avec très peu d'improvisation, à part dans des scènes comme les joutes ou des trucs comme ça.
Autre cinéaste mis en avant et bien vivant, celui-ci, Wim Wenders. Alors autant citer le réalisateur allemand pour parler de cette exposition. Fin 1976, j'ai tourné L'Ami américain à Hambourg et à Paris avec Bruno Ganz et Dennis Hopper. Le scénario était adapté du roman Ripley s'amuse de Patricia Highsmith. Les Polaroids étaient alors l'équivalent des photos instantanées que permettent les smartphones aujourd'hui, leurs ancêtres analogiques en somme. Véritables journaux intimes, les caméras produisaient des impressions originales. Je photographiais différents lieux de tournage, puis j'épinglais les Polaroids au mur du bureau de production. La personne chargée du script photographiait chaque scène pour assurer leur continuité. Je photographiais mes acteurs pendant les répétitions et quelquefois pendant le tournage. Même dans l'histoire, Dennis Hopper, interprétant le rôle du personnage trouble de Tom Ripley, se servait d'une caméra Polaroid. L'acteur a fini par devenir notre ami américain, si bien que nous avons changé le titre du film qui était censé s'appeler « Piégé ». Voilà. Parlons maintenant d'une exposition de ces rencontres d'Arles qui met en avant les moyens de la création cinématographique. Elle s'appelle Scrapping Books dans l'imaginaire des cinéastes. Le scrapping book est né d'une pratique anglo-saxonne mêlant album photo et journal intime. Il peut réunir aussi bien des photographies que des dessins, des timbres, des cartes postales, des coupures de presse ou encore des cartons d'invitation. Il donne ainsi l'occasion de création artistique. Et cette exposition présente quelques-uns des plus beaux scrapbooks de cinéastes. On le voit qu'ils sont tout étant photographes, poètes ou dessinateurs. Ils donnent avec ces scrapbooks accès à l'origine de la création secrète de leur film, nous plaçant au cœur du processus d'élaboration. Alors, je ne suis pas certain que Roland Emmerich ou Michael Bay, que tu aimes tant, est un scrapbook. En tout cas, ils ne font pas partie des cinéastes qui ont cédé les leurs. On retrouve en revanche William Burroughs, qui n'est pas franchement un cinéaste d'ailleurs, Pedro Costa, Jim Jarmusch, Bertrand Mandico, le français, Chris Marker, Agnès Varda, encore elle, et Stanley Kubrick. Voilà. Tous dont je vous parle, c'est pendant les rencontres d'Arles qui se déroulent jusqu'au 24 septembre. Inutile de vous rappeler que c'est à Arles, dans les Bouches-du-Rhône.
Au revoir. Au revoir.
Au revoir.
Ça s'impose.
Mais pour quelle raison?
Qu'est-ce que vous racontez? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Je ne connais pas la réponse moi-même. Comme vous êtes bizarre.
Oui.
C'est difficile de répondre.
C'est une plaisanterie.
On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission spéciale été avec la rediffusion d'un blind test. On retrouvera la série sur les femmes compositrices et puis nous parlerons de Lars von Trier puisque sa filmographie ressort sur les écrans.